Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est Maître Boris Rosenthal. Boris est avocat au barreau de Paris depuis 2015. Il fait partie de ces téméraires qui se sont installés dès le début à leur compte. Il exerce en droit pénal et est également membre du bureau de la FNUJA, la Fédération Nationale de l'Union des Jeunes Avocats. Maître Capucine Deligneris m'a parlé de Boris il y a un an, quand l'idée du podcast venait de naître dans mon esprit. Boris n'a jamais répondu à mes textos et j'avais donc laissé tomber. Puis, c'est Maître Vincent Filola, qui est la 8e fleur d'avocat et qui m'avait été recommandée par ma sœur, qui m'a parlé de Boris. Je n'ai compris que c'était le même Boris que quand l'historique de la conversation s'est affiché sur mon portable. Boris n'a par contre toujours pas répondu à mon texto. C'est là que Vincent m'a dit que Boris était nul avec les textos et qu'il fallait l'appeler. Ce que j'ai fait dans la foulée, bien sûr. Boris a cette fois tout de suite répondu à mon coup de téléphone et l'interview a été fixée pour le surlendemain. Le fin mot de cette histoire, c'est que je suis bien contente que cette interview ait eu lieu parce que je la trouve très cool. Merci donc à Capucine et Vincent pour leurs recommandations. Je vous préviens juste qu'au cours de cet épisode, vous entendrez un bruit de sirène, un bruit de travaux et de temps en temps les roulettes du siège de Boris sur le parquet. Vous m'entendrez aussi avoir du mal à poser la bonne question et enfin rire, mais ça, je suppose que vous vous êtes habitué. Bonne écoute! Bonjour Boris Rosenthal.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat.
Un plaisir.
Alors Boris, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat.
Alors, je pense que pour être tout à fait honnête, ça remonte assez loin. Je crois que d'une certaine manière, quand j'étais gamin, j'étais toujours celui, toujours un petit peu le plus turbulent, le plus, pour parler extrêmement crûment, le plus casse-couille, celui qui faisait les bêtises, voilà. Du coup, quand il y avait quelque chose, qu'il y avait une bêtise qui était faite, on se posait assez rarement la question et on se disait directement, Boris, il est où ? Et je pense que j'avais un sentiment un petit peu d'injustice chronique qui est née par rapport à ça, enfin vis-à-vis de cette situation.
T'étais dans une famille nombreuse ?
Ouais, j'ai un petit frère et une grande sœur.
D'accord.
Et c'était aussi par rapport à mon cousin. Enfin, mon cousin, je l'énervais, on a quasiment le même âge. C'est genre mon cousin qui est un petit peu mon frère. Et mon but était de l'énerver, donc c'était aussi ça. Quand il criait, je devais pas être très loin. Et donc il y avait beaucoup de Boris arrête, Boris fait ci, Boris arrête de faire ça. Et je pense qu'il y a eu un sentiment d'injustice qui est né très tôt. Et du coup, le besoin de combattre cette injustice qui est né très tôt aussi. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'être avocat à terme.
Et tu avais relié une certaine résolution d'injustice avec le métier d'avocat ou c'est venu plus tard ?
Bah, je pense que c'est venu un peu plus tard. Après, c'est évolutif. J'ai été délégué de classe parce que je me sentais, peut-être aussi une certaine aisance à la parole. Et j'étais un petit peu grande gueule, donc une aisance à la parole, une aisance aussi d'expliquer pourquoi les gens avaient des mauvaises notes. C'était important pour moi de pouvoir expliquer ce qui se passait dans la vie des gens et qu'on pouvait pas limiter les gens aux notes qu'ils avaient. Et aussi parce que j'étais pas nécessairement un très bon élève. Donc j'avais besoin aussi de justifier, je suis pas quelqu'un de fondamentalement bête, c'est peut-être le système aussi qui me convenait pas. Donc j'avais besoin aussi de l'expliquer, et pour l'expliquer pour moi, je passais aussi par le fait de l'expliquer pour les autres. Donc délégué de classe, représentant, même à l'école des avocats, j'étais représentant parce que voilà, mais bon, c'est arrivé peut-être après le choix d'être avocat, ça. Mais je pense que ça a été évolutif et à terme...
Au moment de choisir l'orientation, tu es allé en fac de droit ?
Ouais. La question s'est à peine posée. Ça a été laborieux. J'ai redoublé ma première année de droit.
Comment t'as vécu ce redoublement ?
Pas très bien. En fait, j'ai fait mon lycée en internat. Et je suis passé d'un cadre qui était extrêmement ferme.
Internat parce que tes parents vivaient à la campagne et que...
Non, pas du tout. Parce que j'ai redoublé ma troisième. Et qu'au bout d'un moment, il me manquait un cadre. Et c'était un petit peu la menace qui planait au-dessus de ma tête. Attention, si tu redoubles, tu vas aller à l'internat. Et une fois que j'ai redoublé, c'est moi qui ai fait le choix, c'est moi qui ai pris la décision de dire, bon, concrètement, déjà, on va mettre la menace à exécution. Et surtout, je manque d'un cadre. Je sais ce qu'il me faut, c'est un cadre. Donc, allons-y au moins avec l'idée que c'est ce dont j'ai besoin. Et donc, j'étais à l'internat. Je sors de l'internat. Donc, à la fin de la terminale, je rentre à la... à la fac. Et donc, je ressors d'un cadre qui est extrêmement ferme à un cadre qui n'existe plus. Parce qu'à la fac, tu es censé être extrêmement responsable. On te dit, bon, bah voilà, dans 6 mois, tu as des examens. Pendant 6 mois, tu fais ce que tu veux. Quitte à ce que tu aies tes examens, ou pas d'ailleurs. Mais bon.
Et donc, première année, tu redoubles.
Ouais.
Déception.
Déception, ouais.
Et quand même, tu rempiles parce que tu t'y retrouvais. Enfin, en termes de... les matières te plaisaient.
Oui, les matières, mais surtout l'aboutissement. Je pense que j'avais déjà très envie d'être avocat et que j'allais pas me limiter à un échec et demi.
Un échec et demi.
Bah oui, parce que c'était le deuxième redoublement, donc un échec et demi. Je pense que j'allais pas me limiter à ça et je pense que ce qui m'a manqué cette première année de fac, c'était d'avoir des vrais potes. C'est-à-dire, genre, vraiment, j'allais à la fac un petit peu, genre, sans trop avoir noué de contact aussi, parce que je n'y allais pas énormément. Tisser des liens avec les gens qui allaient à la fac, donc nécessairement pas de groupe de potes, pas de groupe de révision, pas de groupe de voilà. Et quand t'es, je pense que surtout à l'université, quand t'es livré à toi-même, et quand t'es tout seul, t'as beaucoup moins de chances de réussite quand tu n'as pas d'auto-restriction. Voilà.
Et donc la deuxième année, tu t'es chargé de te faire des potes cette fois ?
Ouais, je me suis trouvé un groupe d'amis qui m'a suivi.
Comment t'as fait ?
Je sais pas. Ça s'est fait assez naturellement. Je suis arrivé en début d'année à la fac un jour et puis un mec m'a adressé la parole pour me parler de mes chaussettes. Mais vraiment, c'était genre une situation aberrante. Il me parle de mes chaussettes.
Qu'est-ce qu'elles avaient, tes chaussettes ?
Genre, rien du tout. Genre, fais voir tes chaussettes. Genre, il me dit, mais genre, vraiment, c'était la vraie histoire, c'est ça. On se rencontre de qui c'est un ami qui s'appelle Ellie. On se rencontre, enfin, on tombe à côté et on se retrouve. Je crois que je suis juste devant lui. Il me dit, fais voir tes chaussettes. Il me montre mes chaussettes. Ah oui. Il a l'air déçu de voir mes chaussettes. Je sais même plus quelles chaussettes j'avais. Mais genre, et je me suis dit, oh putain, le mec est chelou. Et voilà, et on est devenu après très amis. Et voilà. Et après, d'autres personnes à la fac, dans le groupe de TD, voilà, et on a évolué les années aidant. On avait des ambitions qui étaient relativement communes. Ellie est devenue avocat. Le troisième de la bande également. Valentin est devenu avocat. Et voilà.
Donc tu étais plutôt timide ?
En fait, je pense que ce serait malhonnête de dire que je suis timide parce qu'en vrai, je pense pas l'être.
Non, mais tu peux être un timide qui a beaucoup travaillé sur le fait d'être moins timide. Ça existe. Mais...
Ah ouais, je pense, en vrai, vraiment, je pense pas être timide. Je pense que j'ai besoin d'observer les gens avant de passer à l'attaque. En réalité, j'ai besoin, je m'adapte beaucoup à la personne que j'ai en face, donc j'ai besoin un petit peu de les observer, de voir comment je dois me comporter ou comment je dois pas me comporter.
Donc en fait, cette première année loupée, c'était une année d'observation.
Un petit peu, ouais, c'est une année d'observation à la fin,
ça. De ton milieu.
C'est exactement ça.
De ton nouvel aquarium.
Exactement.
Et tu fonctionnes par objectif. Est-ce que pendant ces années-là, tu fais des stages ou...
Pendant ces années-là, pendant les vacances, quasiment toutes les vacances, je faisais partie d'une association et j'étais...
Quelle association ?
Le CLEJ. MPE, c'est le Mouvement Populaire de l'Enfance.
D'accord.
Et j'avais passé mon BAFA, j'étais animateur, je suis passé ensuite directeur d'un camp itinérant. Et j'avais beaucoup de... Enfin, j'étais très actif dans cette association, ça me prenait beaucoup de temps.
Qu'est-ce qui te plaisait ?
Dans le milieu associatif ?
Dans le milieu associatif et dans cette association ?
C'est une association, en fait, c'est une association qui organise des colonies de vacances. Le CLEJ, ça veut dire le Club Laïque de l'Enfance Juive. Et c'est un mouvement de jeunesse, à l'origine, qui était le mouvement de jeunesse du parti d'extrême-gauche d'Europe de l'Est, du 19, début 20e. Mm-hmm. Et donc voilà, qui attachait une importance non pas à la religion mais aux cultures juives et avec une voilà avec une avec des valeurs socialistes mais socialistes plus socialistes SFIO que socialistes comme on peut l'entendre aujourd'hui. Par exemple, j'ai été colon, c'est-à-dire que j'ai été enfant dans cette colonie Et à la fin, une fois qu'on est trop âgé pour être enfant, on se pose la question, est-ce qu'on veut devenir animateur? Et moi, la question aussi, c'est pas, enfin, c'est un petit peu imposé à moi parce que j'avais très envie de l'être depuis toujours.
Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être colon dans cette association justement?
C'est une famille, enfin, c'est une ambiance qui est extrêmement familiale. Aujourd'hui, mes meilleurs amis, c'est des mecs que j'ai connus quand j'avais 7-8 ans. Qui sont de cette colo, enfin c'est mes frères quoi, c'est ma famille, on se voit tout le temps, on s'appelle, enfin je pense que ça fait c'est une partie intégrante de moi, enfin assez importante, enfin, c'est en partie cette colonie qui m'a construit, c'est en partie cette colonie qui a forgé mon état d'esprit, ma manière de m'exprimer, mes convictions profondes.
Tu veux nous en parler de ces convictions?
Le podcast risque de pas être suffisant.
Ben on va voir. Ça se trouve, je le ferai en deux épisodes.
Waouh! Je sais pas, des convictions. Bah, typiquement, des conditions. Je le réalise en te parlant, mais la conviction de défendre, d'injustice, de combattre l'injustice, je pense que c'est cette colonie aussi qui me l'a forgé parce que je sais pas, parce qu'encore une fois je pense que j'étais turbulent dans un groupe, j'étais aussi celui souvent qui était chiant et qui faisait des conneries, et puis du coup j'étais très souvent sanctionné, trop souvent sanctionné, et parfois, je sais pas si souvent, mais en tout cas parfois sanctionné à tort, donc voilà. Et en même temps c'était une colo où il y avait un grand principe de pédagogie active dans laquelle on responsabilise les jeunes, les enfants, à construire leur propre cadre, à construire leur propre colonie, à construire leurs propres règles aussi, qui sont des règles de collectivité. Et voilà, de privilégier aussi ce qu'est la collectivité et le groupe par rapport à l'individu. C'est des choses qui sont, enfin, pour moi, qui sont assez fondamentales. Conviction de combattre l'oppression, de combattre les règles, enfin en tout cas de critiquer les règles qu'on nous impose, de comprendre aussi les règles, pourquoi elles existent. Et voilà, je sais pas
donc
si
tout
ce
ça
que je
tu
dis
l'as
a
vraiment
vraiment un sens en
forgé.
fait. J'ai l'impression que ça parle, je pars un petit peu dans tous les sens,
Non,
mais.
mais en tout cas, c'est des choses que tu as le sentiment que tu as construites dans le cadre de ces colonies que tu faisais les étés
Absolument.
enfant et que tu as poursuivi après en t'engageant dans l'association. Très bien. Donc, quand tu es devenu avocat, quand tu as choisi de devenir avocat, est-ce que tu avais touché quand même du doigt le métier d'un point de vue pratique?
J'avais fait un stage chez une avocate que j'admire beaucoup, qui s'appelle Sophie Thonneau, qui a combattu et qui a attrait devant les juridictions françaises les tortionnaires, notamment les tortionnaires argentins, mais aussi les personnes, les commanditaires, enfin les hauts fonctionnaires du régime Pinochet. Et Pinochet de manière post-mortem également. J'avais fait un stage au sein de son cabinet justement pendant le procès Pinochet.
Comment est-ce que tu es arrivée à faire un stage chez elle?
Par des relations, c'était l'avocate de ma marraine. Et je l'ai rencontrée, le courant est assez bien passé. Je lui ai demandé si je pouvais travailler avec elle, au moins dans le cadre de ce procès, du procès Pinochet. J'ai eu la chance de travailler avec elle. Donc j'avais un petit peu touché du doigt ça. J'avais fait mon stage en troisième dans un cabinet d'avocats, mais je ne peux pas du tout appeler ça une première approche parce que en troisième, quand tu as 14-15 ans, ouais 15 ans, tu es cantonné aux photocopies. En plus, j'étais dans un gros cabinet qui ne ressemble pas
Ouais.
du tout à ma manière
Ben
d'exercer aujourd'hui.
ouais, ça dépend. C'est vrai qu'il y a eu des fleurs d'avocats qui ont parlé de stages éblouissants ou au contraire, l'avocat les a vraiment mis partout et ils ont découvert. Bon, toi, ça n'avait pas été le cas. Donc,
Pas du
en tout cas, toi,
tout.
c'est le moment où tu as touché du doigt la profession. Et donc, ce que je trouve original, en fait, c'est que cette avocate qui travaille sur des problématiques qui enfin, semblent assez en ligne avec des convictions et. Enfin voilà une histoire personnelle. En réalité, tu l'as rencontrée un peu par hasard d'un membre de ta famille, enfin de ta marraine qui a eu besoin d'un avocat, mais enfin, c'est horrible,
Oui,
c'est un
c'est
drôle
vrai.
hasard de la vie.
C'est vrai. J'aurais pu tomber sur quelqu'un de complètement différent, dans un sujet complètement différent. En fait, je pourrais faire aujourd'hui du fiscal.
Et donc tu penses que justement, c'est cette rencontre et la manière dont cette avocate exerçait son métier qui ont forgé ton exercice tel que tu l'exerces aujourd'hui?
Oui, en tout cas, je pense que c'est au contact de cette avocate que je me suis rendu compte qu'il était possible, en tout cas, d'exercer le métier d'avocat avec des convictions profondes, avec des valeurs importantes, avec voilà, et qu'on n'était pas obligé de s'inscrire dans un moule avec une matière en particulier, avec un chemin tout tracé. Et voilà, je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Je suis
c'est ton côté électron libre, agité.
C'est ça. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de liberté pour m'épanouir et que c'est une des rares professions dans laquelle il y a une liberté aussi importante, qui est encadrée par une responsabilité immense aussi, hein, et qui permet, enfin en tout cas moi, qui me permet d'évoluer et aujourd'hui d'être heureux déjà, et d'être surtout de travailler avec des gens que j'aime, enfin, avec lesquels je m'entends particulièrement bien.
Et tu as fait référence à un moule. Qu'est-ce que tu veux dire par moule? Et est-ce que tu avais l'impression que ce moule, enfin c'est une deuxième question, mais il t'était un peu imposé?
Alors qu'est-ce que j'entends par moule? Déjà, je pense qu'on se fait une idée des avocats, en les mettant typiquement dans une caste. Les avocats sont tous les mêmes, ou les avocats, ou un avocat c'est ça, ou en faisant une généralité. Moi, je suis partisan aujourd'hui de penser qu'un avocat, c'est déjà une multitude de manières d'exercer. Et quand tu demandes à un avocat comment il exerce, je pense que tu le sais mieux que personne, mais il y a deux avocats et trois manières d'exercer différentes. Donc voilà. Et quelle était la deuxième question?
Et si tu avais l'impression que ce moule, mais donc tu n'as pas tout à fait répondu en réalité, puisque tu as dit, on a l'impression qu'avocat, c'est d'une certaine manière, ça renvoyait à quoi pour toi, cette certaine manière d'être? Cette image un peu que tu avais?
Peut-être à une partie trop importante du système, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un paradoxe dans l'avocat, enfin dans la place de l'avocat en tout cas dans la société, qui est que il fait partie d'un système qui est ce qu'il est, d'un système judiciaire qui est plein de rouages et d'engrenages, et en même temps c'est une des seules pièces de cet engrenage qui est indépendante, parce que elle ne répond parce qu'on n'a pas de ministère de tutelle, parce qu'on a une liberté dans notre parole et dans ce qu'on fait qui est quasi totale. Quand on prend la parole pour les intérêts d'un client, on est absolument, enfin on est libre de dire tout ce qu'on veut, on est libre de, enfin vraiment de tout dire, de l'insulte au mensonge, en passant par voilà, je cite exprès l'insulte et le mensonge parce que pour moi c'est ce qui peut entacher aussi la profession, mais qui est révélateur de toute la liberté qu'on peut avoir. Et d'un autre côté, enfin de manière assez paradoxale, et comme on peut défendre tout le monde et n'importe qui, de l'État justement à la personne la plus démunie ou la plus faible, et ben on fait partie du système judiciaire. Donc on peut être assimilé à une certaine dureté, on peut être assimilé à la lenteur, on peut être assimilé à tous les défauts qu'on peut reprocher au système judiciaire.
Donc toi, dureté, lenteur, qui était un peu ce à quoi pouvait te renvoyer a priori l'idée d'avocat, c'est quelque chose qui, on le comprend bien, te ressemblait pas. Tu as découvert une autre manière d'exercer auprès de cette avocate chez qui tu as fait un stage. Mmh. Et du coup, tu t'es dit que tu n'étais pas obligé d'exercer avec voilà, dureté, lenteur, en faisant partie d'un système. Tu as découvert une liberté, en fait.
Une liberté, oui. Une liberté, et ça, enfin, surtout, encore une fois, une liberté et une... J'ai découvert qu'on était avocat, enfin que... Une personne était avocat non pas parce qu'il choisissait cette voie-là, mais parce qu'il était lui-même, enfin parce qu'il se sentait, parce que je sais pas comment l'expliquer.
T'as vraiment ressenti le fait qu'avocat c'est un état, c'est pas une profession.
Oui, c'est un petit peu ça. Et elle est, enfin et voilà, et genre, encore une fois, Sophie Tonon exerce avec une telle singularité que je me dis c'est pas possible. Enfin déjà tous les avocats ne sont pas comme elle, et presque, mais aucun avocat n'est comme elle. Donc du coup je me suis dit ok, enfin c'est génial en fait, c'est parce qu'on peut être avocat singulier.
Et comment est-ce que tu as construit ta singularité comme avocat? Tu as cru que tu allais ne pas réfléchir hein, ce matin
ouais,
pendant cette interview être...
J'aurais dû préparer. Fallait m'envoyer des questions avant. Comment j'ai construit la singularité? Je pense que je l'ai pas encore construite. Je pense qu'elle se construit à travers les années, que on s'inspire beaucoup de personnes qu'on admire et que j'ai la chance d'avoir, d'être entouré de personnes que j'admire et que je construis et que je prends un bout par-ci, un bout par-là. Et alors... que parfois, même dans la douleur, même que je prends des bouts chez les gens que j'admire pas, parce qu'il faut pas être dogmatique, et qu'on construit sa singularité. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un petit peu encore l'archétype de l'avocat pénaliste, où j'ai la tête de l'emploi, où j'ai le... Voilà, et que ça va se construire à travers les années, et que un jour je serai un avocat qui ressemble à aucun autre.
C'est hyper intéressant ce que tu dis et tu survoles beaucoup trop rapidement. Donc je suis navrée, on va revenir dessus.
La meuf
tu
est dis psy, que en
tu
fait,
es.
Hein.
Tu dis que.
Il
n'y
a pas de divan, on voit pas l'espace, mais il n'y a pas de divan.
Tu dis que tu es entourée de personnes que tu admires et que tu pioches chez elles des éléments que tu as envie d'intégrer dans ta pratique. Un petit bout chez l'un, un petit bout chez l'autre. Est-ce que tu veux nous parler de ces petits bouts?
Ouais, pourquoi pas. Je sais, enfin c'est très très large comme question parce que il y a des personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Notamment j'ai été collaborateur pendant très peu de temps et pendant trop peu de temps d'ailleurs un avocat qui aujourd'hui, enfin que j'admire énormément, qui est un avocat relativement jeune. Il doit avoir entre, je crois, il doit avoir 15 années de barreau, mm-hmm. qui n'est pas énorme. Qui s'appelle Romain Boulet par exemple, et que quelqu'un que j'admire énormément. Et j'ai essayé de prendre de tout le travail que j'ai pu faire à ses côtés, j'ai essayé de prendre sa rigueur, sa simplicité, son approche de la procédure, son approche du client, qui est une approche fondamentalement humaine, enfin c'est et en même temps tellement je sais pas comment dire, mais tellement rigoureuse juridique, qui est quelque chose que je pense que je n'ai pas naturellement et qu'il a fallu, qu'il faut que je travaille encore évidemment, mais qu'il a fallu que je travaille beaucoup à ses côtés parce que je pense pas être comme ça naturellement. Donc voilà, par exemple, prendre ce petit bout chez lui, je travaille aux côtés d'un de mes meilleurs amis qui est Vincent Fiola, que tu as pu entendre également, interviewer également, qui est une personne que j'admire aussi beaucoup et que j'essaye de prendre chez lui son sens, je ne sais pas comment dire, son sens de l'engagement, son approche aussi de la profession, parce qu'on exerce de manière extrêmement différente lui et moi. Et pourtant, on a commencé ensemble, on a commencé dans les mêmes locaux, on a commencé aujourd'hui, on suit dans les mêmes locaux et on évolue un petit peu ensemble. Et pourtant, on exerce de manière très différente. J'ai pris, lorsque j'ai fait un stage chez un très bon avocat pénaliste, c'était extrêmement difficile parce que humainement c'était extrêmement difficile, mais c'est un très bon avocat pénaliste qui a des très beaux dossiers, qui littéralement t'épuise dans tous les sens du terme, physiquement, psychologiquement, c'est quelqu'un qui t'essore, et j'ai essayé de prendre chez lui par exemple son regard sur le dossier parce que c'est quelqu'un qui arrive à voir dans un dossier qui fait 30 000 pages la page sur laquelle il y a une brèche qui va s'ouvrir, parce que, enfin, il a un regard d'aigle sur un dossier par rapport à ce qu'il entend, par rapport à ce qu'il discute avec le client, par rapport à ce qu'il voit dans une procédure. Il va savoir où regarder, et à chaque fois qu'il disait bon bah va regarder cette cote, ou va regarder ce document, ou va regarder ça, bah c'est là-dedans qu'on trouvait une brèche dans le dossier, un élément de défense, un élément important. Donc voilà, j'essaie de piocher un petit peu à droite à gauche.
Et parmi, tu as aussi cité qu'il y a des choses dont tu ne voulais pas, dont tu t'inspirais aussi, d'une certaine manière.
Absolument.
Pareil, si tu veux nous en parler.
C'est difficile, je pense que j'ai travaillé aussi aux côtés de gens, ou même je les vois, je vois des avocats qui ont des manières d'exercer qui sont pas mon approche de la profession. Parce qu'on est dans un métier, on est dans une profession qui est un petit peu concurrentielle, donc certains avocats se permettent énormément de choses.
Comme
approcher des clients qui ont déjà des avocats pour prendre de la clientèle, ce qui n'est pas extrêmement déontologique, je dirais, mais même, enfin, sans parler de déontologie et sans rentrer vraiment là-dedans, ce qui n'est pas, je trouve, très, très, très moral. Enfin, ouais. C'est pas une manière d'exercer. J'ai vu des pratiques, j'ai vu des confrères appeler des clients en détention ou se faire appeler par des clients en détention en disant « Ah, vous êtes avec lui en détention, passe-le moi au téléphone », alors qu'on sait très bien qu'il est un avocat. J'ai vu des confrères promettre monts et merveilles à des personnes, enfin à des clients « Je vais vous sortir de prison, en une semaine vous êtes sorti de prison ». J'ai vu des mecs, enfin c'est une réalité, j'ai vu des avocats dire à des clients « On va payer un tel, on va payer le juge, on va payer le procureur », ce qui est une connerie sans nom et surtout un mensonge à l'état pur. Enfin, c'est des choses que j'ai pu constater. Et voilà, je pense que c'est en voyant aussi ce qu'on ne veut pas devenir qu'on devient la meilleure version de soi-même.
Donc au contraire, toi, une loyauté et une sincérité dans une certaine réalité du dossier et par rapport aux clients, de ne pas se mentir. Bon, on y va, on fait tout ce qu'on peut, mais on se ment pas sur les chances ou les voilà ce qu'on peut faire.
Alors ouais, déjà on ment pas à l'autre. Se mentir, j'ai envie de dire, c'est parfois à son insu. Parfois on se dit qu'on peut réussir à faire quelque chose, et on se rend compte au cours du dossier ou au fur et à mesure du dossier que ouais, là j'ai peut-être été un petit peu ambitieux sur ma stratégie. Mais non, donc se mentir, c'est pas non, mais avec l'autre au moins, enfin et même c'est se protéger parce que bah, j'évolue dans une matière qui est le pénal, où les clients ne sont pas nécessairement des anges, et ça peut être, c'est une réalité de dire que c'est un milieu aussi qui peut être dangereux pour les avocats, parce que quand on promet quelque chose, quand on promet un résultat, qu'on n'a pas le résultat, bah, c'est plus sa responsabilité qu'on engage, c'est aussi sa sécurité, parce qu'on s'est engagé sur un résultat.
Tu t'es déjà senti un peu menacé par ton exercice ?
J'ai déjà reçu des menaces.
De clients par rapport à un résultat que tu n'avais pas obtenu ?
Non, pas du tout par rapport à un résultat, par rapport à une incompréhension. Ce que je disais, c'est qu'on est tributaire, nous, d'une lenteur judiciaire, on est tributaire aussi de décisions de justice, des décisions des juges, d'orientation du parquet, donc du ministère public. On est tributaire de ça, sur lesquels on ne peut faire que des recours, et malheureusement, sur lesquels on a une influence qui est extrêmement limitée. Et lorsqu'un client ne comprend pas ça, et voilà, c'est quelque chose qui est en détention en plus, donc ça veut dire qu'il est entre quatre murs et qu'il n'arrive pas à voir l'ensemble de la situation, qu'il est bloqué dans un état d'esprit, c'est une situation qui rend fou. Et donc
comment est-ce que tu as géré ces menaces ? Comment est-ce que tu les as vécues et comment est-ce que tu les as gérées ?
Je les ai gérées frontalement. Je les ai vécues en me disant, la première fois, c'est que ça choque un petit peu, en disant, genre, où est-ce que j'ai déconné pour pouvoir recevoir une menace comme ça. Et après, moi, j'ai quelque chose, je tergiverse pas, genre, je reçois une menace, c'est extrêmement simple. Je vais voir mon client et je mets les choses au clair. C'est-à-dire que, soit c'est un moment genre vraiment lunaire, sorti de nulle part, et le client s'excuse et dit ah, je suis vraiment désolé, j'ai arrêté de fumer, je me sens pas bien, voilà, je suis dans une période de ma vie où je me sens voilà, il s'est tombé sur vous et vraiment je m'excuse, etc. Et il y a une vraie relation de confiance qui existe et qui perdure. Soit au contraire, c'est quelque chose qui est voilà, c'est une menace et on rend le dossier.
Ouais.
Il n'y a pas 36 solutions. De toute façon, moi, je travaille sur, enfin, avec mes clients, je travaille sur la confiance. Ils me font confiance et je leur fais confiance. C'est sans ça, je ne veux pas travailler.
Et tu as parlé du fait que quand tu t'es retrouvé dans ces situations-là, en réalité, c'était souvent des situations où le client ne comprend pas l'appareil judiciaire qu'il y a derrière. Et enfin, voilà, te prend un peu pour. T'es un peu le mur entre ça et ce qu'il y a derrière. Et ben, malheureusement, c'est toi qui prends. Est-ce que mieux. Communiquer, enfin là c'est vraiment une question que je te pose moi par rapport à ce que j'ai pu vivre, parce que par exemple j'ai eu un client, alors moi c'est pas du pénal, c'est pas le même profil, c'était de la responsabilité médicale, donc on est dans des choses quand même beaucoup plus apaisées, mais voilà, qui comprenait pas pourquoi on n'avait pas encore de retour du juge, de l'assureur, pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de transaction, etc. Et cet avocat, ce client, par exemple, j'ai un client qui a eu une expertise amiable qui s'est bien passée avec l'assureur, où le médecin conseil de l'assureur, globalement, nous donne raison, l'assureur fait pas de retour, et puis moi je relance, mais je peux rien faire d'autre. Il me dit, mais vous pouvez pas leur faire peur en leur faisant une fausse assignation en justice et tout, Et je dis, bah non, je ne peux pas faire de fausse désignation en justice. Je peux leur dire qu'éventuellement, on, voilà, on tirera les conséquences et que voilà, mais je ne peux pas. Et en réalité, je me suis rendu compte, et ce client, en fait, ça m'attriste un petit peu parce que, bon, il se trouve que j'ai arrêté d'exercer. Et je lui ai dit, ben là, je suis désolée, mais je peux rien faire. Si l'assureur veut pas transiger, ben il veut pas transiger. Malheureusement, vous êtes vraiment dans le cas type où en fait c'est un petit montant et donc à tous les coups ils disent qu'en fait vous irez pas, vous les assignerez pas en justice parce que ça vaut pas le coup de payer un avocat pour ça. Mais voilà, moi je peux rien faire et voilà. Et je sais qu'il est en froid contre moi et je me dis, j'ai pas réussi à bien lui expliquer en fait, à être assez pédagogue sur les limites de l'amiable, sur les limites du système et tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as... Enfin, je suppose que c'est quelque chose que t'as dû apprendre avec le temps à mieux informer, en fait, juste tes clients.
Alors, je l'apprends encore, vraiment à mieux communiquer. Il faut beaucoup plus communiquer, c'est vrai. Après, j'ai surtout appris autre chose dans ce genre de situation. C'est qu'on passe assez de temps à se battre contre tout et tout le monde. Contre les magistrats, contre la procédure, contre les parties adverses, souvent contre son client. Pour aussi genre prendre du recul par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on fait et prendre du recul par rapport aux procédures et se dire à un moment donné voilà, j'ai expliqué à mon client, s'il n'est pas capable de comprendre enfin je peux pas faire plus quoi. Genre je vais pas me torturer il y a un certain nombre de dossiers dans le cabinet pour pas avoir à me torturer quand un client veut pas comprendre, quand je le répète 4 fois ou 5 fois la même chose et que qu'il me repose toujours encore les mêmes questions et que je le répète s'il veut pas comprendre, il veut pas comprendre. À un moment donné je c'est peut-être que, alors quand on a expliqué 3 ou 4 fois la même chose avec des mots différents, s'il ne comprend pas, c'est qu'il ne veut pas comprendre, et s'il ne veut pas comprendre, c'est qu'il y a une raison derrière et que cette raison elle
oui, et toi t'es pas le psy qui voilà, doit la dénouer quoi.
Exactement.
Et pour un peu changer de sujet, mais tu parlais tout à l'heure de cet avocat qui t'a beaucoup appris, une collaboration qui a duré trop peu de temps.
Ouais.
Pourquoi cette collaboration a-t-elle duré trop peu de temps? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était le confrère qui m'a fait prêter serment, donc qui m'a fait un contrat de collaboration avec lequel je devais travailler. Finalement, cet associé m'a expliqué qu'il ne pouvait plus me garder. Et donc il m'a quand même laissé prêter serment avec le contrat de collaboration qu'il m'avait fait. Suite à quoi je me suis installé tout de suite à mon compte. C'est-à-dire que j'ai commencé à louer des locaux en prenant le parti de rentrer dans un calcul un petit peu hasardeux, de me dire voilà, il suffit que je rentre 2 dossiers par mois pour le moment et je suis sur des comptes qui sont à zéro. J'arrive à payer mon loyer, j'arrive à payer un tout petit peu mon perso et j'arrive un petit peu à survivre. C'est un pari qui
fait partie de ces téméraires.
Je sais pas si c'est téméraire, mais j'avais pas tellement le choix en fait. Concrètement, on est dans un marché. Quand t'as pas de référence, quand t'as pas de voilà, ou quand tu connais pas personne vraiment dans la profession, soit tu galères pendant des mois à chercher une collaboration, voilà. Soit tu t'installes. Et donc, moi, j'ai pris le parti de m'installer.
Et t'as pas eu peur?
Si. Alors, le grand avantage que j'avais, c'est déjà que je partais de rien. Donc, je pouvais pas tomber plus bas. Grosso modo, je pouvais pas gagner moins que rien. C'était pas possible. Donc, quoi que je gagne, c'était mieux. Je pouvais pas gagner moins que zéro. Donc ça c'est le grand avantage. Mais non, mais c'est je pouvais pas, je partais de rien, j'avais pas de rémunération avant, enfin une rémunération de stage qui vaut ce qu'elle vaut quoi. Je pouvais pas gagner moins de 700 euros par mois, enfin c'est physiquement impossible. En vrai, quand tu travailles à ton compte.
Ouais.
Et je pense qu'il y a aussi autre chose qui a joué, c'est que voilà, comme je l'ai dit au début, je suis très très faible de liberté, rendre des comptes ça me saoule, et genre si je fais cette profession c'est aussi parce que c'est une profession qui est libérale et que je suis indépendant et que il y a rien de plus paradoxal que la collaboration libérale. Donc voilà, alors oui, c'était flippant, bien sûr, la première année c'était la galère, mais vraiment vraiment la galère.
Ça veut dire quoi la galère?
Bah, ça veut dire la galère, ça veut dire qu'on sait jamais comment on va je terminais le mois avec très peu, je le commençais avec encore moins, enfin c'était la galère. Parce qu'une fois sur deux j'avais un loyer en retard, parce que
Et comment tu t'en es sorti de cette galère?
en étant genre en redoublant d'efforts, en étant très présent, en me forçant à avoir du travail, en me forçant à faire les choses, en faisant même du bénévolat, en me montrant, en développant une clientèle, voilà. Et en rencontrant aussi des personnes, et notamment cet avocat pour lequel j'ai bossé trop peu de temps, pour revenir à la question initiale. Donc du coup, je m'installe et j'apprends, je rencontre par le biais de personnes que je rencontre sur ma route, je rencontre des avocats, des pénalistes, voilà, je demande des rendez-vous, je m'installe, si vous avez des vacations, si vous cherchez un collaborateur peut-être à mi-temps, si vous cherchez... Et j'entends que Romain Boulet cherche quelqu'un à mi-temps, donc je le harcèle, je l'ai littéralement harcelé, mais je l'appelais vraiment tous les deux jours. Au départ, il me balaye un petit peu du revers de la main, sans que je comprenne pourquoi. Je comprends ensuite pourquoi, et il traverse une période difficile et tout simplement et on finit par se rencontrer. Et il me prend un mi-temps en me disant très clairement, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un pour 4 mois ou 4 mois parce que j'ai une juriste qui revient à plein temps et qui revient à mon cabinet à plein temps et donc je préférerais avoir la juriste qui va grandir au cabinet, qui va finalement être élève avocate puis stagiaire puis collaboratrice, etc. plutôt que une situation que je ne peux pas maîtriser. Et donc, je suis resté pour lui à mi-temps pendant 4 mois. Et voilà. Et finalement, j'aurais évidemment adoré rester plus. L'histoire veut que ça ne soit pas le cas et qu'on reste encore très amis et qu'on ait des dossiers ensemble et qu'on se fasse une confiance mutuelle très importante. Et voilà. Et ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs, parce que...
En fait, ça a été une sorte de vraie collaboration libérale.
Exactement.
Ça t'a mis le pied à l'étrier, tu as appris plein de choses en termes vraiment de technique sur ton métier d'avocat, etc. Mais ça t'a pas empêché de toi te développer, c'est super.
Bah, je gardais mes locaux et c'est vraiment ça. Je gardais mes locaux, c'était une vraie collaboration libérale. Je gardais mes locaux qui étaient dans le 4e, j'étais dans ces locaux la moitié du temps. Et c'était lundi, mardi et la moitié de mercredi. Et il ne se permettait pas, sauf urgence, de m'appeler la fin de la semaine. Auquel cas, il me payait une vacation, quoi. C'était, encore une fois, ça lui ressemble d'une rigueur absolue et d'une honnêteté, quoi.
Donc, ce que je retiens, c'est quand même que tu es dans cette galère. Les fins de mois sont difficiles. Il faut que tu développes ta clientèle. Et toi, ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu es allé... T'as tendu la main, quoi. C'est-à-dire que t'es allé à la rencontre des gens en disant, ben voilà, je suis dans telle situation. Tu sais que c'est pas évident pour tout le monde. Toi, tu dis oui en mode oui, c'est évident.
Je suis pas allé, je me suis pas présenté comme ok, je suis en mal de clientèle de quoi que ce soit. En fait, le but c'était de se montrer. J'ai participé à une campagne, mais parce que aussi ça m'intéresse, donc j'ai participé à une campagne au bâtonnat, durant laquelle le candidat pour lequel je me suis battu n'a pas été élu, mais ça m'a permis de comprendre un petit peu la profession. D'essayer d'apporter aussi mon grain de sel à un programme, de rencontrer plein de gens qui soit étaient à leur compte, soit étaient collaborateurs, soit étaient voilà, enfin à un moment où je commençais à exercer, ou même j'ai commencé cette campagne, j'étais même pas encore avocat, j'ai prêté serment pendant la campagne, enfin c'était voilà, j'ai essayé le plus possible d'être visible et d'être identifié comme un jeune avocat dynamique, compétent et qui en veut. Et en gros, c'était genre le but, c'est que les gens puissent avoir confiance en moi, qu'ils tentent en tout cas, qu'ils tentent l'expérience de me confier quelque chose et qu'ils constatent que c'était une bonne expérience. Comme avec un client, en fait.
T'as aussi parlé d'un stage avec un avocat très difficile, qui t'a aussi appris beaucoup de choses. Comment est-ce que t'as géré ça, le fait d'être avec un avocat, qu'est son caractère
Alors, j'y allais en connaissance de cause, je m'étais renseigné, j'avais appelé son collaborateur, ses collaborateurs avant, parce qu'on en avait parlé, cet avocat-là, j'avais appelé ses collaborateurs avant. Donc, j'y allais vraiment en connaissance de cause. Je pense que c'est un petit peu mon côté maso. On a souligné le fait que je n'avais pas énormément d'expérience en intégrant l'école d'avocat et en sortant. Mais je pense que j'avais besoin de me confronter à la dureté vraiment de la profession, pour savoir si j'envisageais aussi de faire ça toute ma vie Et ça m'a finalement que conforté dans l'idée, cette expérience qui est vraiment, genre, je suis tombé malade, enfin, c'était...
Comment ça, t'es tombé malade?
Ouais, j'ai été très malade, genre, mais cet homme-là est fou, en fait. Je suis malade, je me fais opérer, mais très très rapide. Enfin, j'ai une petite opération, mais sur une anesthésie locale. Je sors de l'hôpital à 18h, par réflexe et parce que c'était des textos en permanence. Je dis, bon, bah, je suis sorti de l'hôpital, tout s'est bien passé, etc. Il est 18h, 18h30, je suis anesthésié localement. Le mec me dit, ah, vous revenez au cabinet? Enfin, on en est là, quoi. C'était. Ça n'a pas de.
Et t'es revenu au cabinet?
Bah non, pas du tout. Non, je ne reviendrai pas. Là. Mais donc je pense que j'avais besoin, enfin vraiment, je me connais, j'avais besoin de me confronter à ça, j'avais besoin de me faire fouetter, j'avais besoin de ça, déjà pour me montrer que j'étais capable de supporter, parce que le challenge veut que si tu arrives à supporter 6 mois dans un cabinet comme ça, bah c'est bon, je pense que tu peux tout supporter dans la vie, ou en tout cas dans la profession. Et ensuite, franchement, enfin, voilà, j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de supporter ça et que j'étais capable de le surmonter.
Quand tu dis que t'es tombé malade, c'est lié au...
Évidemment. Ouais. Évidemment.
Ouais.
Bah, je le vois. Et quand alors, c'est pas tout le temps le cas, mais quand on tombe malade, ça veut dire qu'on n'a pas le système immunitaire pour se défendre. Ça veut dire soit qu'on est fatigué, soit qu'on prend pas soin de soi, soit que... voilà, que ça veut dire qu'on travaille beaucoup, ça veut dire qu'on pousse les limites physiques, nos limites physiques. Et là, ce que j'ai développé, c'était que j'ai poussé mes limites, j'ai repoussé mes limites. C'était un moment où mon corps m'a dit non.
Et quand ton corps t'a dit non, par contre, c'est le moment où t'as dit, est-ce que c'est le moment où tu t'es dit, bon bah là, j'arrête de repousser mes limites justement.
j'ai juste arrêté pendant une journée de repousser mes limites. Ouais. Et je les ai repris et j'ai repris
le lendemain. Et rebelote, ouais.
Ouais. Bah, j'ai envie de dire pas trop le choix, en fait. Pas trop le choix, mais c'est une profession qui est comme ça. T'es absent pendant un mois, tu perds des clients qui essayent de te joindre. T'es absent pendant... quand t'es à ton compte, c'est la réalité, et celle-là.
Et est-ce que t'as développé des... Qu'est-ce que t'as appris pour survivre dans un tel environnement?
À être disponible tout le temps. Tout le temps. Vraiment tout le temps. Vraiment, disponibilité. Et au moins à répondre quand on n'est pas disponible, c'est qu'on s'arrange pour qu'il y ait quelqu'un de confiance qui le soit. Parce qu'il faut être réaliste, on n'est pas disponible tout le temps. Et on a le droit de ne pas être disponible tout le temps, même dans ce métier. Par contre, c'est important que la relation de confiance qu'on noue avec nos clients soit suivie. Et donc, nécessairement, quand je suis pas disponible, bah, j'envoie quelqu'un en qui j'ai confiance et qui sera capable d'assurer pour moi, ou comme si c'était moi, ou avec ma manière, ou avec... voilà.
Et au-delà de l'environnement concurrentiel, je voulais faire référence au fait de travailler avec un fou, comme tu dis.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as appris sur ça, sur comment travailler avec un fou?
Bah déjà, pas le devenir.
Et comment devient-on pas?
Bah en évitant les pratiques qui font devenir fou, en évitant les pratiques qui se mettent en danger, en évitant de pratiquer, en évitant de maltraiter les autres. Je pense qu'on travaille bien quand on est dans un environnement qui est relativement sain. Et,
Mais pendant que tu y étais? Parce que tu es quand même resté 6 mois, donc ouais. qu'est-ce que t'as développé en fait?
En termes professionnels?
Ouais, en termes professionnels, relationnels.
À tout, j'ai arrivé quasiment sans expérience, mais avec une grande volonté, enfin en tout cas vraiment avec envie de faire les choses. J'ai développé des compétences que tu peux pas développer dans d'autres types de cabinets. Parce que ce que tu développes j'arrive le premier jour. Cet avocat me donne deux énormes dossiers à synthétiser. Un dossier avec des schémas financiers complètement malade, et un autre dossier sur un trafic de stupéfiants qui fait 12 tomes, quoi. C'est, il me demande, bah, si ce soir j'ai besoin de deux synthèses. Je ne sais pas ce que c'est qu'une synthèse, je n'ai jamais fait de synthèse, je n'ai pas de modèle de synthèse, et j'ai devant moi 12 tomes plus 6 tomes, j'ai 18 tomes de procédure que je dois synthétiser en, allez, 10 heures, max. C'est impossible, je n'ai jamais vu un... Enfin, concrètement, à ce moment-là de ma vie, genre, j'ai dû voir deux procès-verbaux dans ma vie, quoi. Enfin, c'est... Je ne sais même pas ce que c'est qu'une ORTC. Il me dit ORTC, je ne sais même pas ce que c'est.
C'est quoi une ORTC ?
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. D'accord. Enfin, c'est... Je... À ce moment-là, je ne sais pas. Je sais pas. Il me dit, bon, bah, tu fais ça. Bah, j'ai deux solutions. Soit je le fais, en fait, soit je me casse. Bah, j'ai essayé de le faire. Du coup, à la fin de la journée, j'en ai à peine une. Il lit la première ligne qui est pas dans la bonne police, il me la jette à la gueule en me disant genre non mais ça va pas la tête, enfin genre tu me refais ça tout de suite, genre bah je sais pas, regardez peut-être le fond, peut-être que genre tout n'est pas acheté, non je sais pas possible quand c'est que je veux ça. Enfin, voilà, premier jour.
Mais ça c'est sur ce que t'as appris vraiment de donc du coup à te débrouiller, à y aller, à faire de la synthèse et tout, mais en termes de savoir-être, en fait. C'est ça qui m'intéresse.
Ah.
Comment est-ce que t'as fait... Bon, t'es tombée malade, donc, quand même. Mais pour arriver à travailler avec cette personne.
Bah, encore une fois, j'y allais en connaissance de cause. Donc, j'y allais pas... Enfin, j'y suis allé en me disant, genre, je vais faire les 6 mois. J'ai un gros avantage dans cette histoire.
Une fois que t'y étais.
Bah, je me suis même pas posé la question. Enfin, je veux dire, il a jamais été question... que je parte avant, il a jamais été question que je quitte, il a jamais été question, voilà, il a jamais été question que je me plaigne, il a jamais été
mais
question...
Mais t'as réussi quand même à... Je pense que je te pose mal la question. Est-ce que t'as réussi à mieux comprendre comment cette personne fonctionnait pour que ça se fasse mieux ?
Ah bah oui, au bout d'un moment, on commence à lier une... Voilà, le premier jour, c'est le premier jour. Au fur et à mesure du travail que je produis, des choses que je fais, je me fais engueuler régulièrement, mais c'est... Au moins, on commence à s'apprivoiser et à se faire confiance. C'est en m'améliorant que j'ai pu aussi gagner un petit peu sa confiance. C'est en m'améliorant dans le travail et en montrant que je voulais m'améliorer.
Donc aujourd'hui, t'es à ton compte ?
Oui.
Toujours ? Comment ça se passe ?
Bah, c'est bien, très bien.
Bien.
Je suis très content. Je développe l'activité exclusivement en droit pénal. Ce qui est quand même un luxe de pouvoir faire le choix de ces dossiers, voilà. Encore une fois, je travaille avec des gens avec lesquels je partage plus que mes locaux et plus que certains dossiers, ce qui est quand même aussi un luxe. J'ai réussi à construire une vie amoureuse qui est cool, ce qui n'est pas toujours facile dans ce métier.
Surtout quand on doit être disponible à 24.
Exactement, qui n'est pas tout le temps audible de la part de l'autre personne, mais bon, non, c'est génial aussi d'avoir cette liberté-là, d'être à son compte et de pas avoir, enfin, vraiment d'avoir cette liberté et d'avoir cette, voilà, j'ai la chance, je pense aussi de rencontrer quelqu'un que j'aime profondément et voilà, donc ce qui me permet, qui est avocate aussi, donc du coup, elle comprend aussi certaines de mes problématiques.
Tu disais tout à l'heure que pour le moment, t'étais en train de construire ta singularité, que tu t'inspirais, que tout ça. Tu disais que pour le moment, tu sentais que tu avais encore beaucoup cette étiquette de jeune avocat pénaliste. Est-ce qu'il y a une autre étiquette que tu aimerais développer ?
Pour le moment, c'est une étiquette qui me convient. Après, genre, je me limite pas à ça. J'aime... avec beaucoup de prétention, dire que je suis un avocat qui est engagé. Je suis engagé dans la profession, j'ai toujours aimé le milieu associatif.
Comment est-ce que tu es engagé dans la profession et dans la justice, justement ?
Je suis au bureau de la Fédération des Unions des Jeunes Avocats,
ouais.
Donc, qui est la Fédération Nationale. Je co-dirige, même c'est un peu pompeux, je co-dirige une commission auprès de l'Union des Jeunes Avocats de Paris. Enfin,
Et qu'est-ce que tu fais à cette fédération et dans cette commission, justement ?
Bah, on réfléchit au sujet, on fait des motions, on fait des propositions, on influence.
Donc sur quel sujet ?
Alors ma commission, elle œuvre pour typiquement l'aide juridictionnelle et le pro bono.
D'accord.
Donc vraiment là par exemple, on est en train de faire une contribution et des propositions quant aux évolutions de l'aide juridictionnelle. Il y a un certain nombre de questions qui se posent actuellement, et l'actualité de l'aide juridictionnelle fait que typiquement il y a eu une diminution des unités de valeur sur le droit des étrangers par exemple. Donc on est en train de réfléchir là-dessus.
Et cet engagement, qu'est-ce que c'est important pour toi, non ?
C'est indispensable. Encore une fois, genre j'ai commencé, finalement j'étais engagé dans un petit peu dans la profession avant de prêter serment. Je m'étais intéressé à une campagne, au bâtonnage, je m'étais intéressé aux questions qui se posent, je m'étais intéressé aux préoccupations des confrères, alors que j'en étais même pas encore un. Pour moi, c'est au-delà de ma manière d'exercer et de ce que je veux faire de mon cabinet, c'est la profession.
Non, il faut que le collectif, quoi.
C'est ça. Là, ça rejoint un petit peu l'histoire de devenir avocat.
Ouais. Et puis en plus, le collectif en termes de. Enfin, voilà, de profession avec un grand P, mais je suppose que c'est aussi un lieu où tu rencontres un moyen de rencontrer plein de personnes.
Absolument.
Autrement que pour tes chaussettes.
Autrement que pour mes chaussettes. Et si on se faisait la réflexion, j'étais en détention hier avec une consoeur qui est dans le cabinet aussi. Et il y a quelque chose qui est très vrai et que j'aurais jamais pu le formuler de cette manière-là. Elle m'a dit. Qu'est-ce que c'est bien d'aller dans des endroits et d'avoir des gens connus, d'avoir une tête connue. Genre, on est arrivé à Fleury et on a rencontré un avocat dans les transports qui est un pote avec lequel je travaille. On est arrivé à Fleury, on a rencontré un autre avocat dans lequel elle avait un dossier avant et que j'ai un dossier avec lui également. On arrive au parloir avocat et on voit un autre avocat avec lequel, qu'on connaît pas, je connais pas très bien, je vais pas boire des bières avec lui, mais genre on se croise en audience c'est tout sourire et y a un bon contact et elle me dit mais qu'est-ce que, enfin en fait cette profession est géniale quand t'arrives dans un endroit et que t'as une tête connue et que tu te sens bien dans ce que tu fais et je trouve qu'il y a rien de mieux que ça, enfin vraiment qu'il y a rien de mieux qu'arriver dans des endroits et te dire je suis en train de travailler, je suis en train d'exercer de la manière dont je veux exercer. Et en plus, t'as des gens en face avec lesquels c'est peut-être même pas tes meilleurs amis ou quoi que ce soit, mais genre c'est des gens que tu connais avec lesquels t'es déjà arrivé à avoir un dossier ou t'es déjà et même si t'as pas réussi, même si t'as jamais travaillé avec eux, c'est des gens où on se reconnaît, où on se connaît une valeur mutuelle. Et je trouve que c'est un luxe de travailler dans ces conditions-là.
Cette multitude de liens.
Ouais.
C'est également quelque chose qui est souligné par Valentin Bouron, qui est mon 16e, qui est paru là aujourd'hui. Et lui, il adore sa vie de palais, il plaide beaucoup et un peu partout. Et il dit, maintenant je connais des confrères un peu dans les différents barreaux. Et puis j'adore les croiser, j'adore toutes ces rencontres. Et puis il est aussi au tennis club du palais et il adore ça. Enfin justement, les rencontres qu'il fait dans le cadre de cette vie associative et tout. Et c'est quelque chose qu'il souligne. Super. Écoute, merci beaucoup, Boris. Alors, j'ai trois petites questions pour terminer. Est-ce que tu peux me parler du... Quelle est une source d'inspiration pour toi, actuelle ou récente ?
Je peux avoir les trois questions, comme ça, je peux y réfléchir. Non ?
Non. Non.
Mais en fait, j'en vois tellement. Enfin, c'est...
Mais c'est super d'avoir plein de sources d'inspiration. Qu'est-ce qui te vient, là, en tête ?
Mon amoureuse.
L'amour, c'est quand même une belle source d'inspiration.
Oui.
Et nous enregistrons ce podcast le 14 février. Donc,
c'est vrai.
C'est la Saint-Valentin aujourd'hui.
Je vais écrire un texto. Merde. Oui, je l'avais prévu, évidemment.
Donc, ton amoureuse, l'amour, belle source d'inspiration. Ta dernière joie.
La première chose à laquelle je pense, en fait, il y a deux choses, mais la dernière chose à laquelle je pense, c'est nécessairement dans le milieu professionnel. La première chose à laquelle je pense, c'est dans le milieu professionnel. J'ai eu une série de relax la semaine dernière, et je pense qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être entendu quand on dit quelque chose et d'être entendu tant sur la forme que sur le fond. Et d'avoir une relax, j'ai une relax sur des nullités de procédure et une autre sur le fond du dossier, vraiment sur le fond du dossier. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que vraiment d'être entendu quand on plaide pour quelqu'un et quand on plaide l'innocence de quelqu'un et quand on est entendu, c'est... Enfin, donc du coup, je suis sorti là, j'étais...
Et tu penses à une deuxième chose ?
Mais oui, mais on en revient toujours au même, mais c'est parce que tu m'as fait penser au 14 février. Mais.
L'amour, toujours.
C'est ça.
Très bien. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe?
Bah, déjà, jamais des baskets. C'est une règle qu'on s'est imposée quand on était à l'université, on ne plaide plus en basket. On a perdu un concours d'éloquence à 3 parce que. Ah putain, ils sont en vain. On a perdu,
non,
l'éloquence,
c'est trop bien,
on a perdu un concours d'éloquence. On prépare un dossier, on est en, je crois, en deuxième année, on se bat contre des mecs qui sont en M2, enfin voilà, on est en finale et on perd le concours d'éloquence à un demi-point qui est sur la présentation. Alors que la veille, on s'est dit, on plaide, on vient en costard-cravate. Moi, j'arrive en costard-cravate, il y a à 4 épingles, etc. Et les deux autres arrivent, genre, très bien fringués, dandy comme toujours, mais en chaussures, pas chaussures de ville, mais moitié basket, moitié chaussures. Et on a perdu le concours d'éloquence à un demi-point tenant la présentation. Et depuis, moi, je me suis promis, on s'était promis d'ailleurs, de jamais plaider en basket. De plus jamais plaider en basket. Parce que ça se joue à ça parfois. Donc, déjà, je porte pas des baskets. Qu'est-ce que je porte sous la robe? Je dirais plus qu'est-ce que la robe porte en réalité. Enfin, je me porte moi sous la robe. Et quand je porte la robe, je suis autre chose que moi.
Et donc, qu'es-tu?
Ah, bah, je suis le maître moi.
C'est quoi le maître toi?
Bah, c'est le moi investi d'une mission que m'a confié un client. C'est le moi investi d'une mission que je me suis confié à moi-même en endossant la profession d'avocat.
Merci beaucoup, Boris, pour
cet entretien. Merci à toi.